Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour notre séance d'inauguration de la Société de philosophie de Bordeaux 2015-2016. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel Renaud, qui est bien connu ici à Bordeaux et qui enseigne la philosophie. Il est professeur à l'Université Paris-Ouest, anciennement Paris 10. Emmanuel Renaud a publié un nombre important d'ouvrages que je ne vais pas citer en intégralité, mais je vais vous indiquer les deux ou trois champs qui me semblent principaux, même si son champ me semble être celui de la philosophie allemande classique. En tout cas, il a un travail important sur Marx, sur la lecture de Marx, sur la question de la critique chez Marx, en particulier l'ouvrage qui s'appelle « Marx et la philosophie » ou « Lire Marx ». Il a aussi un travail qui était autour des années 2004-2008 autour de la question de la philosophie sociale. Donc, par exemple, deux ouvrages publiés à la découverte, hein, « L'expérience de l'injustice », « Reconnaissance et clinique de l'injustice » avec un usage du travail de Honneth. Et puis aussi l'ouvrage donc paru à la découverte en 2008, « Les souffrances sociales ». Aujourd'hui, il vient pour nous parler de son ouvrage qui est le suivant, hein, « Connaître ce qui est, enquête sur le présentisme hegelien » paru chez Vrin. Mais précédemment, il avait fait paraître, toujours sur Hegel, « Hegel et la naturalisation de la dialectique ». Donc on a là un volet important de ses études sur Hegel et Emmanuel Renaud renouvelle la lecture qu'on peut faire de la philosophie de l'histoire de Hegel. Et je vais donc lui passer la parole immédiatement.
Merci Kim, merci à la Société bordelaise de philosophie donc, de m'inviter pour la deuxième fois, à vrai dire. La première fois, c'était, je ne me souviens plus bien, en 98 ou 99. Il y avait certaines personnes dans la salle qui étaient déjà là, ce qui me plonge dans le passé et ce qui est une curieuse manière de commencer à réfléchir sur la centralité du présent chez un auteur du passé. Donc je ne vais pas proposer un résumé de ce livre, Le présentisme hegelien. Je vais plutôt chercher à présenter, une réflexion sur le sens du présentisme de Hegel, donc une réflexion qui sera moins philologique que celle que j'ai cherché à développer dans le livre. Je me suis dit que ce serait sans doute moins intéressant pour des personnes qui ne sont pas spécialistes de Hegel que de s'engager dans des questions d'exégèse hegelienne précises fondées sur la discussion des textes. Et donc, je vais proposer une réflexion plus systématique au sens d'une réflexion sur les différents sens possibles que l'on peut donner à l'idée de présentisme aujourd'hui, et sur la manière donc, dont on peut considérer que Hegel prend parti, ou pourrait prendre parti, ou aurait pu prendre parti dans les différents débats qui aujourd'hui sont associés à ce terme. Alors, le terme de présentisme, il faut commencer par préciser qu'il est relativement nouveau hein, dans le vocabulaire philosophique et dans le vocabulaire plus généralement des sciences humaines. Aujourd'hui, ce terme reçoit deux types de significations. La première, qui est la plus répandue, sert à formuler un diagnostic historique. Et la seconde signification, ou le second type de signification, sert à identifier des orientations théoriques dans des débats plus techniques. Alors le premier type de signification que peut recevoir le terme de présentisme est le plus répandu, et c'est le suivant. Le monde contemporain serait marqué par une tyrannie du présent. C'est-à-dire une tyrannie d'un présent séparé de l'avenir, d'un présent séparé du passé. Et cette tyrannie du présent, elle serait solidaire d'un blocage de l'agir historique. Donc, comme si, en se coupant de notre passé et en nous coupant également de l'avenir, nous nous couperions de toutes les forces qui pourraient irriguer l'avenir historique, qui pourraient nous engager dans une action qui viserait à transformer ce présent en quelque chose d'autre que ce qu'il est déjà en un avenir et en faisant par là même sombrer ce présent dans le passé. Alors, entendu en cette première acception, le terme de présentisme est péjoratif. Et ce n'est pas en ce sens que l'on peut parler de présentisme hegelien, c'est en un autre sens. Ce qui ne veut pas, c'est donc, et c'est également dans un autre sens donc, que je vais parler du présentisme de Hegel aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que Hegel ne puisse pas nous permettre de contester certains éléments, certains présupposés, certains des arguments qui fondent le diagnostic sur le présent, étant donc diagnostic péjoratif d'un présent qui serait donc marqué par un présentisme au sens de la tyrannie du présent. Au contraire, on peut penser que Hegel peut permettre de contester la vision du présent qui est sous-jacente à ce diagnostic, comme si un présent pouvait être complètement coupé du présent et du passé. C'est une première présupposition en définitive de l'idée suivant laquelle la période contemporaine serait marquée par une tyrannie du présent. Et par ailleurs, du point de vue de l'action, eh bien, on pourrait également s'interroger sur l'idée qui est présupposée dans ces diagnostics en termes de tyrannie du présent, l'idée suivant laquelle eh bien, l'agir historique se bloque quand et parce que le rapport au passé et à l'avenir est rompu. On peut se demander si il ne faut pas, au contraire, penser que c'est dans le présent lui-même que se trouvent les ressorts ou les causes du blocage de l'agir historique et par là même les causes d'un nouveau type de rapport au présent et au public et au passé. Donc, remettre en cause un certain nombre des présupposés relatifs au diagnostic contemporain concernant le présentisme dont nous serions aujourd'hui les victimes, c'est peut-être l'un des enjeux d'une réflexion sur ce que Hegel a pu dire du présent, sur le présentisme de Hegel en un autre sens. C'est l'un des enjeux peut-être du présentisme hegelien, en d'autres termes. C'est peut-être l'un des enjeux les plus intéressants pour des non-spécialistes de Hegel ou pour des non-philosophes. Mais ce n'est pas cet enjeu que je vais aborder centralement dans le reste de cette intervention. Je ne vais pas m'interroger sur la manière dont Hegel émet des diagnostics historiques, mais plutôt la manière dont il fait du primat du présent une orientation fondamentale de sa philosophie. Je vais donc, en d'autres termes, m'interroger sur les acceptions du terme présentisme qui renvoie donc aux usages théoriques du terme de présentisme et non pas aux usages qui renvoient au diagnostic historique, ce qui ne nous empêchera pas, peut-être, dans la discussion, de revenir sur cette première acception et sur le présentisme au sens du diagnostic historique et l'ensemble des problèmes qu'elle peut poser. Alors, le terme de présentisme peut donc recevoir un autre type de signification. Un autre type de signification qui ne relève pas du diagnostic historique, mais qui relève d'usage théorique du terme présentisme. Et je dis d'usage théorique au sens où ce terme peut également servir à identifier un certain nombre de positions théoriques dans des débats philosophiques de différentes natures. Étant donné que ces acceptions du terme de présentisme sont moins connues, il faut que je précise un peu la nature de ces débats et la nature des positions qui peuvent être défendues au nom du présentisme, qui peut être désigné en termes de présentisme dans ces débats. Alors, on peut distinguer, me semble-t-il, trois grands types de débats. D'une part, des débats ontologiques, d'accord, ou des débats assez techniques dans le cadre de l'ontologie analytique ou de la métaphysique analytique, où l'on oppose communément le présentisme, qui soutient que seul le présent est réel, à des positions qui soutiennent que le passé, voire le futur également, peuvent l'être, et des positions qui sont appelées classiquement, dans le cadre de ces débats, éternitistes. La notion de présentisme, on peut remarquer qu'elle a droit à une entrée dans le glossaire qui conclut le traité d'ontologie de Frédéric Neff, une présentation générale de ces débats d'ontologie analytique. Alors, deuxième type de débat, des débats en théorie de l'action. Dans le cadre des théories dispositionnelles de l'action, enfin, on soutient que l'action ne doit être expliquée ni en termes causaux, c'est-à-dire en référence à des antécédents, ni en termes d'état futur visé ou en termes intentionnels ou intentionnalistes, mais en termes d'activation des dispositions. Et c'est toujours au présent que les dispositions pratiques sont activées ou inhibées, d'où la possibilité de désigner un certain type de théorie de l'action, disons des théories dispositionnelles de l'action, au moyen de la catégorie de présentisme. Et c'est ce que fait, par exemple, Hans Joas dans l'ouvrage « La créativité de l'agir » pour parler notamment de la théorie de l'action de Dewey et d'autres également. Enfin, troisième type de débat, dans les débats en épistémologie de la connaissance historique. Le terme de présentisme peut désigner une position hein, dans des débats relatifs à la nature de la connaissance du passé. Le terme de présentisme désigne alors la position suivant laquelle la connaissance du passé adopte toujours le point de vue du présent sur le passé, hein, et qu'elle ne peut pas, et donc elle ne doit pas, hein, chercher à adopter un autre point de vue. Bon, alors il y a toute une littérature qui emploie le terme de présentisme pour désigner ce type de position, hein, notamment bon, un article d'un certain William Dray qui a publié en 1989 un article intitulé « Some varieties of presentism ». Alors, en chacune de ces acceptions, le terme de présentisme peut recevoir une acception descriptive ou une acception normative. Hein, on peut en trouver une illustration dans les débats sur, disons, relevant des questions d'épistémologie et de la connaissance historique. Hein. On voit bien que c'est une chose que d'affirmer que la connaissance historique s'effectue toujours du point de vue du présent, d'accord ? Et c'est autre chose hein, que d'affirmer que l'historien doit assumer ce point de vue et doit donc activement et volontairement eh bien, poser des questions qui se posent aujourd'hui aux événements passés. Hein. Diriger, donc, en d'autres termes, la connaissance, l'entreprise de connaissance du passé à partir d'un point de vue qui s'explicite comme un point de vue présent. Alors, donc moi, je vais me demander maintenant comment Hegel peut être situé au sein de ces différents débats. Hein. En d'autres termes, comment Hegel serait intervenu au sein de ces différents débats s'il avait pu le faire. Et je vais défendre l'idée qu'il aurait défendu des positions présentistes en chacun de ces débats. Hein. Et cela... en défendant des positions présentistes au sens descriptif aussi bien qu'au sens normatif du terme. Alors, ces différents débats, on peut constater, hein, cette énumération suffit à l'établir, qu'ils se sont développés indépendamment les uns des autres, hein, sous des formes qui renvoient à l'usage de vocabulaire technique et de problématiques, de styles philosophiques qui semblent tout à fait hétérogènes les uns aux autres et qui semblent trop hétérogènes pour qu'il soit possible, à première vue, semble-t-il, à partir de ces débats, de faire du présentisme, en général, une orientation philosophique cohérente et globale, qui recouvrerait eh bien, une position commune qui se déclinerait dans ces différents débats. Or, c'est cela qu'il faudrait présupposer, que le présentisme puisse donc être conçu comme une orientation philosophique cohérente et globale, pour pouvoir affirmer que le présentisme, en tant que tel, constitue une orientation générale de la philosophie hegelienne. Hein, or, c'est bien ce que je vais chercher à faire, hein, montrer que le présentisme en tant que tel, hein, et non pas simplement dans tel ou tel débat, eh bien, caractérise la philosophie hegelienne en tant que, qu'il constitue l'une de ses orientations fondamentales. Alors, bon, pour rendre plausible l'hypothèse suivant laquelle on peut donner un sens ainsi cohérent et global à cette notion de présentisme, hein, je voudrais toujours, en guise d'introduction, souligner que, ou rappeler qu'il existe des auteurs qui, non seulement sont intervenus dans l'ensemble de ces débats en défendant des positions présentistes, mais l'ont fait à partir d'un même principe général, hein, de sorte que, chez ces auteurs, il semble peu contestable que le présentisme constitue une orientation générale de leur philosophie, hein, précisément parce qu'elle est cohérente, globale et extensive. Leur présentisme est extensif, cohérent et global. Alors, même si, par ailleurs, le terme de présentisme peut être absent chez ces auteurs, puisque c'est un terme récent, c'est un terme qui appartient depuis une date récente au vocabulaire technique de la philosophie, et donc pas du tout est surprenant que ce terme soit absent des auteurs que l'on peut rétrospectivement identifier comme des présentistes. Alors, avant de me demander si on peut compter Hegel parmi ces auteurs fort rares, donc je voudrais mentionner Dewey et Mead, ces deux pragmatismes américains dont le pragmatisme fournit une bonne illustration d'une philosophie admettant le présentisme comme l'une de ses orientations fondamentales. On peut commencer par remarquer que Mead est l'auteur d'un ouvrage, posthume certes, mais néanmoins qui recouvre tout un ensemble d'articles et de conférences qu'il avait rédigées, un ouvrage intitulé « Philosophy of the Present ». Et le titre suffit à indiquer que le concept de présent est érigé en catégorie fondamentale du pragmatisme de cet auteur, qui est le même que celui de Dewey, ces deux auteurs qui étaient amis et collègues, bon, et qui ont défendu des positions tout à fait comparables. Alors, non seulement donc, le concept de présent est érigé en concept fondamental chez ces auteurs, mais en outre, ces auteurs ont défendu des positions qu'on peut juger rétrospectivement comme étant présentistes, du point de vue ontologique, du point de vue de la théorie de l'action, du point de vue pratique, la philosophie pratique, et du point de vue de la théorie de l'histoire. Le premier chapitre de The Philosophy of the Present est intitulé The Present as a Locus of Reality, le présent comme lieu de la réalité. Et la première phrase, on lit la première phrase de ce premier chapitre, la réalité existe dans un présent, elle n'existe qu'au présent, cette réalité. Une thèse ontologique présentiste. Quant à Dewey, dans Human Nature and Conduct, Nature humaine et conduite, il a développé une théorie de l'action dont on peut dire qu'elle est présentiste, précisément parce que c'est l'exemple même d'une théorie dispositionnelle de l'action, une théorie qui explique notamment que dans son profil ordinaire, l'action ne s'explique ni par des causes antécédentes, ni par la visée d'état futur, mais par l'interaction présente d'un individu avec son environnement. Cette interaction, elle est à l'origine de l'activation ou de l'inhibition de telle ou telle disposition pratique, et elle se développe dans une dynamique de réajustement constante, qui se définit donc dans le présent des interactions. D'après Dewey, ce n'est que lorsque l'action est confrontée à des obstacles que les dispositions ne sont plus en mesure de surmonter, que le rapport tacite à l'environnement, préconscient, rapport à l'environnement qui est vécu au présent, que ce rapport donc se transforme de rapport tacite en rapport réflexif et que l'horizon de l'avenir et du futur s'ouvre en tant que modalité de résolution des problèmes présents. D'une part, il faut se remémorer des situations passées analogues à celles que l'on est en train de vivre et qui sont problématiques pour y chercher des outils permettant de résoudre, d'analyser la nature du problème et de le résoudre. Et d'autre part, il faut se représenter les conséquences futures des différentes solutions envisageables pour résoudre le problème présent. Le présent et le futur apparaissent donc dans ces situations problématiques comme des instruments de résolution des problèmes présents. Alors, enfin, dans sa logique, une théorie de l'enquête, c'est le titre, Logic, Theory of Inquiry, Dewey a souligné, d'une part, que la connaissance du passé a toujours pour matériaux des matériaux présents. En effet, les traces présentes du passé, qu'elles relèvent de témoignages, des documents ou des vestiges. Et d'autre part, il a souligné que la connaissance du passé est toujours dépendante des intérêts de l'époque présente, ainsi que du cadre conceptuel, des croyances fondamentales de l'époque présente. On peut donc dire que chez ces pragmatistes, nous avons affaire à un présentisme ontologique, pratique et épistémologique, la connaissance étant elle-même en règle générale un moyen de résoudre des problèmes présents, et la connaissance du passé tout aussi bien. On peut considérer donc que cette catégorie de présentisme peut être considérée à bon droit comme un concept fondamental de leur philosophie, ou que le présentisme est une orientation générale de leur philosophie, par ailleurs, parce que ces trois présentismes sont unifiés à partir de mêmes principes théoriques, à partir de ce qu'on peut appeler une théorie du primat de la pratique, théorie qui est la marque de fabrique du pragmatisme, et primat du pratique, dont on peut remarquer qu'il est tout à la fois ontologique et épistémologique. Il y a un primat ontologique de la pratique ou du pratique chez ces auteurs, dans la mesure où la réalité est identifiée à la réalité des choses que nous rencontrons dans nos interactions pratiques avec l'environnement, interactions qui se font toujours au présent. Donc c'est parce qu'il y a une constitution pratique de la réalité que la réalité est fondamentalement présente, en d'autres termes. Et par ailleurs, il y a un primat épistémologique de la pratique, parce que la connaissance est interprétée, comme je l'ai rappelé, comme un instrument de résolution des problèmes pratiques, qui sont donc des problèmes présents, et que donc la valeur de la connaissance dépend de sa capacité à thématiser adéquatement le présent. La connaissance du passé et du futur ne faisant pas exception à la règle. Alors la question que je voudrais poser maintenant, c'est la question suivante. Est-ce que l'on peut attribuer un présentisme aussi extensif et cohérent à Hegel qu'on peut le faire s'agissant de ces deux auteurs. En d'autres termes, est-ce qu'on peut considérer que le présentisme définit une orientation générale de la philosophie hegelienne, de même que l'on peut dire que le présentisme définit une orientation générale du pragmatisme américain, de pragmatisme instrumentaliste de Mead et de Dewey, hein, sans présupposer que ce soit le même pragmatisme, hein, ça c'est encore une autre question, même si il se trouve que ces deux auteurs, Dewey et Mead, étaient des hegeliens, hein, et qu'il y a fort à penser que leur présentisme proviennent, hein, de Hegel. Mais c'est une question dans laquelle je ne vais pas entrer. Alors, je vais procéder en quatre temps. Dans un premier temps, je vais rappeler qu'un grand nombre de textes de Hegel donnent à penser, hein, qu'il n'est pas absurde d'émettre l'hypothèse selon laquelle la philosophie hegelienne, au même titre que le pragmatisme instrumentaliste de Dewey et de Mead, pourrait être considérée comme un présentisme. Mais je vais également rappeler que d'autres textes semblent réfuter, hein, cette hypothèse. De sorte que l'idée de présentisme, vous voyez, est chargée de toutes sortes d'enjeux qui sont des enjeux d'interprétation, hein, de la philosophie hegelienne. C'est ces enjeux-là, hein, dont je vais parler aujourd'hui. Dans un deuxième temps, je vais chercher à montrer qu'on peut attribuer à Hegel une ontologie présentiste, ça sera l'objet dans mon deuxième temps, une théorie de l'action présentiste, ça sera l'objet de mon troisième temps, et une épistémologie présentiste, hein, dans un quatrième temps. Et je vais chercher à suggérer qu'il y a une cohérence entre ces différents présentismes. Alors tout d'abord, donc, je commence par rappeler que de nombreux textes de Hegel accordent un certain primat au présent. Alors c'est déjà le cas lorsqu'il exige de la philosophie qu'elle se conçoive elle-même, en tant que philosophie, en tant qu'entreprise philosophique, comme une connaissance du présent. Et ça, c'est un thème bien connu de la philosophie hegelienne, qui est exprimé notamment dans la préface des Principes de la philosophie du droit. Je lis un passage célèbre. « Conceptualiser ce qui est, c'est la tâche de la philosophie. En ce qui concerne l'individu, chacun est de toute façon un fils de son temps. » Ainsi, la philosophie est-elle aussi son temps appréhendé en pensée? Il est tout aussi sot de rêver qu'une quelconque philosophie surpasse le monde présent, son monde, que de rêver qu'un individu saute au-dessus de son temps. De telles formulations, hein, il y en a d'autres, je vais en citer quelques-unes, je vais essayer d'éviter de citer Hegel trop. De telles formulations semblent solidaires d'un double présentisme. Un double présentisme épistémologique, hein, qu'on pourrait appeler un présentisme épistémologique descriptif et un présentisme épistémologique normatif. Hein, c'est bien d'un point de vue descriptif que Hegel affirme que nul ne peut sauter au-dessus de son temps, hein, ou encore que tout individu est le fils de son temps. Hein, c'est un constat, c'est une description. Dans ces formulations, le présent apparaît de fait comme l'horizon de la connaissance, parce que l'entreprise de connaissance ne peut jamais s'affranchir totalement des intérêts et des croyances fondamentales de son temps, de l'esprit du temps, pour parler comme Hegel. D'autre part, ces formulations ont également une valeur normative, le présentisme épistémologique est donc non pas seulement descriptif, mais également normatif, dans la mesure où Hegel semble convaincu que la valeur d'une philosophie dépend de sa capacité à rendre compte de l'état le plus avancé des progrès de la liberté et du savoir. Et par ailleurs, que cette valeur de la philosophie dépend également de sa capacité à résoudre les problèmes de l'époque. C'est ce présentisme épistémologique normatif qui explique que l'introduction de chacune des parties du système se réfère à des développements pratiques ou théoriques récents pour situer l'entreprise philosophique qui est celle de cette partie du système, hein, dans une histoire qui est celle de l'histoire des progrès de la liberté et du savoir. Et c'est ce présentisme normatif qui explique également que dans ces introductions, dans toutes les introductions des parties du système, Hegel s'emploie à identifier des problèmes présents, actuels, que l'entreprise philosophique doit chercher à résoudre. Alors, s'agissant des références aux progrès pratiques, ou au progrès de la liberté, c'est vers les différentes introductions de la philosophie du droit, hein, qu'il faut se tourner. Hein, cette philosophie du droit, les principes de la philosophie du droit étaient est un ouvrage qui a été rédigé sous forme de manuel, qui était destiné à servir de base à l'enseignement de Hegel. Et il est très intéressant de se référer également aux leçons dans lesquelles Hegel expliquait ce qu'il avait consigné dans ce manuel, dans ce précis, dans ce résumé en définitive de sa philosophie du droit. Et ces introductions des leçons, eh bien, elles rappellent toutes, plus encore que les principes de la philosophie du droit, elles rappellent toutes le mouvement de l'histoire du monde, conçu comme progrès de la liberté. Elles situent les tâches de la philosophie dans cette restitution du mouvement du progrès de la liberté dans l'histoire. Et par ailleurs, elles restituent les débats contemporains entre les positions libérales de Fries et les positions réactionnaires de ses adversaires, ces débats au sein desquels la philosophie hegelienne du droit a pour objectif de définir une troisième voie, de sortir du conflit de ces positions unilatérales. S'agissant des références au progrès du savoir, maintenant, et non plus simplement au progrès de la liberté, c'est vers les introductions de la science de la logique qu'il faut se tourner pour trouver les illustrations les plus claires des conséquences de ce que je viens d'appeler un présentisme épistémologique normatif. Dans la version développée de la science de la logique, c'est-à-dire dans sa version publiée sous forme de livre, et non pas simplement dans son résumé dans l'Encyclopédie des sciences philosophiques, dans sa version développée, qu'on appelle parfois donc la grande logique, on trouve une introduction qui souligne le fait que l'idée kantienne de logique transcendantale implique un renouvellement décisif des idées de métaphysique et de logique. Elle fait date. Elle définit le présent philosophique en ce qui concerne les questions métaphysiques et les questions de théorie logique. Mais cette introduction souligne également que l'idée kantienne d'une logique transcendantale a conduit à un abandon problématique de l'ambition qui était propre à la métaphysique de produire une connaissance de la réalité elle-même, de même qu'elle a conduit à un abandon tout aussi problématique de l'entreprise philosophique relevant de la théorie de la logique, ou l'idée qu'elle a conduit à abandonner l'idée que la théorie logique est une discipline philosophique à part entière, porteuse d'enjeux philosophiques décisifs. Et c'est ce double problème, ce double abandon problématique, que la science de la logique s'emploie à résoudre, ou prétend pouvoir résoudre, tout en tenant compte des acquis et du renouvellement décisif des idées de métaphysique et de logique qui est dû à la logique transcendantale kantienne. Alors, on pourrait montrer que dans l'Encyclopédie des sciences philosophiques, les introductions de la science de la logique, de la philosophie de la nature et de la philosophie de l'esprit développent une démarche comparable. Et j'ai consacré des chapitres pour essayer d'analyser tous ces textes introductifs et restituer le type de rapport qu'ils entretenaient avec le présent. Je ne vais pas m'engager dans de telles explications, dans de telles analyses. Je voudrais juste ajouter que c'est dans la phénoménologie de l'esprit, dans la préface de la phénoménologie de l'esprit, pour être plus précis, que la valeur normative du primat du présent, toujours d'un point de vue épistémologique, trouve sans doute son illustration la plus spectaculaire. Puisque Hegel va jusqu'à affirmer que la seule justification possible de la philosophie qui soit extérieure au développement systématique, qui soit extérieure au système lui-même, consiste à montrer que la philosophie est « an der Zeit », que la philosophie est dans le temps, à même le temps. Bon, toutes ces formulations ne sont pas très significatives, mais les traductions littérales ne permettent pas de comprendre de quoi il s'agit. Peut-être qu'il faudrait traduire par « dans l'air du temps », conforme à l'esprit du temps, si l'on voulait utiliser un concept hegelien. Ça signifie, et c'est une thèse très forte, me semble-t-il, qu'aux yeux de Hegel, le fait qu'une philosophie puisse exprimer son époque lui donne la justification, l'une des justifications la plus haute qu'elle puisse obtenir. Ou plus précisément, ça signifie que le fait qu'une philosophie exprime le mouvement d'une liberté en progrès, de même que d'un savoir en progrès, ce fait donc est la plus haute justification externe au développement systématique que sa propre philosophie puisse obtenir. On voit bien ici que le présentisme épistémologique a clairement une valeur justificative, une valeur justificative forte. Il est normatif en ce sens, ce n'est pas simplement descriptif. Alors, pour en revenir à la préface des principes de la philosophie du droit. Hein, je voudrais ajouter maintenant que lorsqu'on la lit, on s'aperçoit que le présentisme épistémologique que je viens de commenter a également dans cette préface des présuppositions ou des implications ontologiques et pratiques. Hein, Hegel critique en effet également les positions, non pas simplement les positions qui pensent que la philosophie peut sauter au-dessus de son temps, mais également les positions qui localisent le devoir-être, hein, donc les principes de droit, on est dans une philosophie du droit, donc les principes d'une politique conforme au droit également, donc toutes ces positions qui localisent le devoir-être dans un idéal séparé de la réalité présente. Il critique donc ces conceptions de l'idéal comme d'un devoir-être opposé à l'être présent. Et de même, il critique les ontologies dualistes qui présupposent que ce devoir-être c'est nécessairement séparé de la réalité. Il affirme d'un côté que la réalité au sens le plus fort du terme est celle de l'effectivité. L'effectivité qui doit être conçue comme une effectivité, Wirklichkeit, je reviendrai sur le sens de ce concept et sa traduction possible, comme effectivité présente. Hein, je cite, l'appréhension du présent, Gegenwart, et de l'effectif, Wirklichkeit, est non dans l'établissement d'un au-delà qui devrait être Dieu sait où. Qu'est-ce que la réalité ? C'est la réalité présente. Il n'y a aucune raison de chercher à élaborer une pensée de l'être véritable qui se trouverait ailleurs que dans la réalité présente, qui se trouverait dans un idéal opposé à la réalité présente. D'autre part, Hegel souligne l'arbitraire de toute position opposant le devoir-être à ce qui est réalisable actuellement dans le monde présent. Encore une citation. Lorsque la réflexion, le sentiment ou quelque autre figure qu'aurait la conscience subjective regarde le présent comme quelque chose de vain, le toise de haut, en sait plus long que lui, la conscience se trouve elle-même dans le domaine du vain. Et parce qu'elle n'a d'effectivité que dans le présent, elle n'est elle-même que vanité. Si elle pense que le monde dans lequel elle existe et qui lui donne sa réalité est un monde vain, alors elle est elle-même vaine. Donc cette position est contradictoire et elle est arbitraire d'un point de vue normatif parce qu'elle se réfère, elle s'autorise à penser le devoir-être d'une manière dont la capacité à améliorer le monde réel ne peut pas être mesurée. Donc on voit que la philosophie hegélienne est centrée sur le présent de différentes manières, qu'elle est centrée sur le présent à tel point qu'il semble légitime de considérer que le primat du présent est une orientation générale, ou définit une orientation générale de la philosophie de Hegel. Mais c'est un fait que cette image de Hegel correspond assez mal à l'idée qu'on se fait généralement de Hegel. Et c'est un fait que les innombrables références de Hegel au présent, que j'ai cherché à commenter dans cet ouvrage, que je ne vais pas énumérer ici, que ces innombrables références donc, ont rarement été jugées décisives par les commentateurs. Hegel est sans doute l'un des philosophes qui s'est le plus efforcé de rendre compte de son temps et qui, plus que tout autre, a érigé cet effort en exigence philosophique de la plus haute importance, sans doute celui qui a cherché à se rendre, à connecter son discours le plus minutieusement avec l'état du savoir de son temps, l'état des institutions de son temps, de l'art de son temps, des débats religieux de son temps. Mais pourtant, les lecteurs de Hegel ont généralement résisté à prendre son insistance sur le présent au sérieux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont généralement considéré que la philosophie hegélienne se caractérisait plutôt par ce qu'on pourrait appeler des orientations anti-présentistes. Selon des interprétations classiques, Hegel ne développerait pas tant une ontologie du présent qu'une ontologie de l'éternel présent, un concept qu'il a effectivement forgé. Et par là même, il aurait réduit la réalité spécifique du présent à celle d'une réalité intemporelle, à une simple manifestation d'une réalité éternelle. En d'autres termes, sur le plan ontologique, suivant ces interprétations classiques, Hegel ne serait pas tant présentiste qu'éternitiste. Par ailleurs, dans sa philosophie de l'histoire, selon une autre interprétation tout aussi classique, il aurait réduit le présent à la récapitulation du passé. En d'autres termes, sur le plan de la théorie de l'action, il ne serait pas tant, pour autant, que l'agir historique hein, est concerné par une théorie de l'action, ou relève d'une théorie de l'action, eh bien, il ne serait donc pas tant présentiste, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, que passéiste. Et enfin, sur le plan de la théorie de la connaissance, il définirait la connaissance la plus haute, à savoir la connaissance philosophique, comme une connaissance de l'éternel présent, plutôt que comme une connaissance du présent dans ses spécificités. Et il ferait de l'organe de cette connaissance, l'esprit en tant qu'il peut s'abstraire du présent pour saisir l'absolu dans le présent, hein, et c'est ainsi que l'on peut interpréter le concept d'esprit absolu. Son épistémologie elle-même serait donc éternitiste ou absolutiste, hein, plutôt que présentiste. Alors, dans le cadre de cette conférence, il n'est évidemment pas possible de considérer l'ensemble des arguments qui peuvent être mobilisés à l'appui de ces deux grands types d'interprétations. Hein, interprétation présentiste d'un côté, passéiste, éternitiste ou absolutiste de l'autre. Ce débat d'interprétation est une des illustrations parmi d'autres du conflit qui date des premières années de l'école hégélienne entre eh bien, une interprétation hégélienne de droite et une interprétation hégélienne de gauche, une interprétation métaphysique de Hegel, une interprétation non métaphysique de Hegel, une interprétation théologique de Hegel, une interprétation non théologique de Hegel. Il serait absurde de prétendre trancher hein, dans ces débats qui durent donc depuis les années 1830. Je vais simplement chercher, pendant le reste du temps qui est à ma disposition, à rendre plausible l'idée suivant laquelle on peut considérer donc Hegel comme un présentiste. Hein, et on peut considérer son présentisme comme une orientation générale de sa philosophie en considérant séparément les questions ontologiques, le présentisme ontologique, si l'on veut, les questions pratiques, ou le présentisme dans la théorie de l'action, et enfin les questions épistémologiques. Donc je commence... Cette enquête sur le présentisme hegélien par la question ontologique. Hein, peut-on attribuer à Hegel une thèse présentiste sur le plan ontologique ? Telle est la question. C'est-à-dire, peut-on lui attribuer la thèse suivant laquelle l'être s'identifie à l'être présent ? Hein, pour parler comme Mead, que le présent est le lieu de la réalité. Pour aborder cette question difficile, il peut être utile de repartir du lien entre... ce qui est présenté dans les débats de l'ontologie analytique ou de la métaphysique analytique contemporaine comme un lien entre les positions actualistes et les positions présentistes. Dans le cadre des débats contemporains en ontologie, on considère souvent que ces deux concepts sont étroitement liés dans la mesure où le présentisme est une variante de l'actualisme, sa variante temporelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par actualiste dans ce débat ? Hein, la position actualiste soutient que seul l'être actuel, l'être en acte, hein, je dirais l'actuel, hein, pour simplifier, pensons à l'être en acte, si on connaît un peu Aristote, on comprend mieux de quoi il s'agit, que seul donc l'actuel est réel, contrairement à une position opposée, qui est nommée dans ces débats possibiliste, qui soutient que le possible également est réel. Hein, on voit bien que si la réalité présuppose, si l'actuel présuppose le possible, alors on peut imaginer que la réalité du réel est conditionnée par la réalité du possible et que le possible lui-même est réel. Bon, alors c'est ainsi de façon très manichéenne que les débats contemporains entendent l'alternative actualiste-possibilisme. Il me semble qu'on peut entendre cette opposition des options ontologiques actualistes et possibilistes en un sens moins dualiste, en entendant également, hein, par ontologie actualiste, une position qui affirme que le possible n'a de réalité que pour autant que cette réalité est dérivée de la réalité de l'être actuel. Donc on peut entendre sans doute par possibiliste une position qui n'exclurait pas la réalité du possible, mais qui la jugerait secondaire ou dérivée par rapport à la réalité de l'actuel. Et inversement, on peut entendre également par ontologie possibiliste la thèse suivant laquelle la réalité de l'être actuel est dérivée de celle du possible. Une position dont on pourrait chercher une illustration chez Leibniz, qui identifie essence, ou être au sens fort ou authentique du terme, et possible. Par exemple, l'essence d'une monade est la forme qui définit la série de ses perceptions possibles. Alors, comment situer Hegel dans ce débat entre actualisme et possibilisme ? Pour répondre à cette question, il faut se tourner vers la section consacrée à la Wirklichkeit, hein, communément traduit par les commentateurs traducteurs français par le terme d'effectivité, hein, pour le distinguer d'autres concepts au moyen desquels Hegel désigne la réalité, comme par exemple le concept de Realität, hein, réalité. Alors, la section Wirklichkeit conclut la logique objective. La logique est divisée en deux parties, logique objective, logique subjective. Disons que la logique subjective correspond à la théorie logique et la logique objective correspond à la théorie métaphysique ou ontologique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la logique objective était désignée dans des ouvrages préparatoires, dans la prépédotique, sous le titre « logique ontologique ». Alors, ce qui est tout à fait intéressant, donc, c'est le dernier mot de Hegel sur l'être, disons, hein, en tant qu'objet d'un discours ontologique. Et ce dernier mot, donc, il est énoncé dans cette section qui a pour titre Wirklichkeit. Et dans cette section, Hegel traite plus précisément des rapports entre le possible, le réel, le nécessaire et le contingent. Alors, pour saisir les enjeux de ce développement, il est sans doute utile de garder à l'esprit que l'une des traductions possibles de Wirklichkeit est actualité. C'est d'ailleurs une des traductions, c'est la traduction, d'ailleurs l'anglais, les traducteurs anglais ont retenu actuality pour traduire la Wirklichkeit hegelienne. Et cette traduction est tout à fait légitime dans la mesure où Hegel souligne lui-même que sa Wirklichkeit traduit le grec aristotélicien energeia. Donc energeia qui renvoie à l'être en l'acte par opposition à l'être en puissance. Alors, l'un des objectifs de ce développement sur le rapport entre Wirklichkeit ou actualité et possibilité est manifestement de critiquer la conception de type leibnizienne qui identifie l'essence à la possibilité, hein, et donc qui fait de la possibilité l'être au sens premier du terme en considérant l'actualité comme étant simplement dérivée de la possibilité ou comme étant posée ou comme étant la réalité en un sens second et dérivé du terme. Alors, les analyses de Hegel sont particulièrement complexes. Il est hors de question de s'engager dans le commentaire de ce développement. Je vais chercher juste à identifier une thèse générale. La thèse de Hegel, contrairement donc à cette conception qui identifie l'essence au possible et qui réduit l'actuel à un mode d'existence de cette essence, la thèse de Hegel, c'est que la réalité au sens premier du terme, c'est la réalité de l'actuel. Ou de l'effectif, si vous voulez, du wirklich. Cette thèse est par ailleurs que l'actualité ou l'être en l'acte ne doit pas être définie comme la réalisation isolée d'un possible isolé, de façon à la fois, disons, ponctuelle et statique, mais de façon processuelle. L'être en l'acte ou l'actualité doit être conçue comme un processus d'actualisation, ou comme étant identique à l'activité, et ça encore c'est quelque chose que Hegel pense trouver chez Aristote dans l'idée d'Energeia. Et la thèse de Hegel est enfin que c'est simplement en tant que possibilité réelle, ou possibilité qui se constitue dans ce processus d'actualisation, que la possibilité acquiert une réalité. Donc, Hegel affirme en définitive que la réalité doit être conçue comme un processus d'actualisation. D'accord, là, qu'est-ce que la réalité, c'est l'être en acte au sens de l'être qui s'actualise. Et il soutient que c'est ce processus d'actualisation qui rend possible les différents moments de son propre développement en produisant des possibilités réelles qu'il réalise ensuite. En posant des possibilités réelles qui sont des possibilités de développement ou d'actualisation, entre d'autres degrés ou phases d'actualisation qui vont ensuite être réalisées. Donc on peut prendre tout ça est passablement abstrait, j'en suis bien conscient. Donc on peut essayer de prendre un exemple pour essayer d'illustrer le sens de cet actualisme. Et on peut se référer à une définition qui relève de la psychologie, disons, hegelienne. Vous connaissez peut-être cette définition célèbre de qu'est-ce qu'un individu, c'est la série de ses actes. Alors quand Hegel définit un individu par la série de ses actes, hein, il le définit comme un processus d'actualisation. Et il situe dans ce processus d'actualisation eh bien, des conditions qui définissent des possibilités réelles qui vont pouvoir donner à de nouveaux actes. Qu'est-ce qu'un individu ? Donc, ce n'est pas une essence formelle qui définirait l'ensemble des actes possibles, position aristotélicienne, position lamnitienne, mais c'est un processus d'actualisation qui définit ce qui est possible aujourd'hui pour nous, de même que c'est ce processus qui a défini ce qui était possible pour nous précédemment. Et qui donne donc, c'est ce processus qui donne de la réalité à certaines possibilités. Ces possibilités que nous pouvons réaliser, que nous sommes en train de réaliser dans un processus d'actualisation. Tant qu'il est donc légitime d'attribuer à Hegel une ontologie actualiste qui ne consiste pas donc à nier toute réalité au possible, hein, mais qui consiste au contraire à reconnaître la réalité au possible en tant qu'il relève de possibilités réelles, c'est-à-dire en tant que le possible est un moment d'un processus d'actualisation. Alors, Hegel est actualiste en ce sens, mais ça ne signifie pas pour autant que l'on peut lui attribuer une position présentiste. Il faut distinguer ces deux concepts. Pourquoi ? Parce que si toutes les ontologies présentistes sont actualistes, eh bien, toute ontologie actualiste, inversement, n'est pas nécessairement présentiste. On pourrait en effet défendre l'idée que le processus d'actualisation qui définit l'effectivité, se développe, c'est une évidence, hein, dans les trois dimensions du temps que sont le passé, le présent et le futur. Et on pourrait soutenir que les actualisations passées sont tout aussi réelles que les actualisations présentes, que les actualisations passées restent présentes, hein, ne serait-ce que parce qu'elles continuent à agir sur le présent. On pourrait dire, pour reprendre le même exemple que je viens de prendre pour illustrer ces positions abstraites, que ce qu'est un individu, eh bien, en tant que série de ses actes, c'est tout autant ce qu'il a fait dans le passé que ce qu'il fait aujourd'hui. Et qu'il n'y a pas de raison de considérer que sa réalité serait plus celle de ses actes présents que celle de ses actes passés. Hein, ce qui conduirait donc à déconnecter l'idée d'actualisme de celle du présentisme. Alors on voit qu'on est conduit à un débat, donc maintenant un autre type de débat. Un débat que, dans les débats contemporains, on appelle parfois un débat relatif à la métaphysique du temps. La question est de savoir maintenant si seul le présent est réel, si le présent est le seul lieu de la réalité, ou bien si le présent et le futur le sont également. Ce qui reviendrait à une position éternitiste. On peut imaginer, par exemple, que si eh bien, le changement est purement contingent, purement apparent, si l'essence est l'être permanent, si l'être véritable, c'est l'être permanent, alors il n'y a aucune raison d'identifier l'être véritable à l'être présent. C'est une position philosophique classique. Alors, qu'en est-il chez Hegel ? Si on se tourne vers les passages de l'encyclopédie qui traitent explicitement du temps, qui se trouve au début de la philosophie de la nature, on est conduit, semble-t-il, à la thèse suivante. Seul le présent est réel, puisque le passé est l'être qui n'est plus, alors que le futur est l'être qui n'est pas encore. Ces formulations sont présentistes en un sens tout à fait, définitionnel, en un sens tout à fait simple, mais à vrai dire, la position de Hegel est un peu plus complexe, puisque le présent est réel, non pas au sens d'un présent qui serait absolument différent du passé et de l'avenir, mais au sens d'un présent qui intègre en lui un passé et un avenir. Le présent en tant qu'absolument différent du passé et du futur, ou de l'avenir, le présent exclusif du passé et du futur, le présent exclusif des autres dimensions du temps, c'est l'instant. Or, l'instant est une limite évanescente, est tout aussi bien une négation d'être, un être disparaissant, que le passé ou que l'avenir. De sorte que le seul présent auquel on peut reconnaître une réalité est un présent différent, un présent qui n'est pas exclusif du futur et du passé, mais un présent qui comporte d'une certaine manière, le passé et l'avenir comme des moments. Ce présent, c'est le présent de, non plus de l'instant, mais de ce que Hegel appelle le maintenant, le jetzt. C'est le seul présent réel. Le seul présent réel, c'est le présent qui possède une épaisseur temporelle. Seul le présent réel, mais le seul présent qui peut être considéré comme le lieu de la réalité, c'est donc le présent du maintenant, le présent qui possède une épaisseur temporelle. Premièrement, un présent qui comporte une forme de permanence, c'est-à-dire qu'il comporte du passé en lui. C'est un présent qui ne disparaît pas immédiatement dans le passé, mais dans lequel le passé perdure. D'accord, le moment, le passé est donc présent à titre de moment dans ce présent. Et par ailleurs, c'est un présent qui est ce présent de l'être pris dans un processus d'actualisation, c'est-à-dire engagé dans une actualisation de possibilités qui ne sont pas encore actualisées. Un présent donc qui comporte à titre de moment des possibles réels en cours d'actualisation, et qui donc sont présents dans ce présent à titre d'un avenir non encore réalisé. Un présent donc qui comporte le passé et l'avenir, un certain type d'avenir, celui de possibilités réelles, en lui à titre de moment. Donc on aboutit à une position présentiste originale qui pourrait être formulée en ces termes. Seul le présent est réel, mais seul le présent réel au sens fort, au sens exclusif du terme, mais néanmoins il y a bien une réalité du passé et de l'avenir, qui relèvent de leur présence à titre de moment dans le processus d'actualisation qui définit le présent. Donc on voit bien que là, j'ai fait ce détour par le concept d'effectivité ou d'actualisation, parce qu'on ne peut pas comprendre le concept de présent sans comprendre qu'il est bien pensé à partir du concept de Wirklichkeit chez Hegel. Alors tout cela reste passablement abstrait, je devine des commentaires impatients à cause de cette abstraction dans la salle. Donc de même, je vais de nouveau prendre le même exemple qui m'a servi à illustrer les positions examinées précédemment. Et on pourrait dire donc toujours que si un homme est la série de ses actes, eh bien c'est parce qu'il se définit non pas par ce qu'il a fait par le passé, non pas parce qu'il pourrait faire à l'avenir, mais fondamentalement par les actes qui organisent actuellement son existence. Ce qu'est un individu, c'est ce qu'il fait aujourd'hui plus que ce qu'il a fait hier. Précisément, il n'est plus celui qui agissait hier de telle ou telle manière. Cependant, en ses actes actuels, ce sont des possibilités réelles, rendues possibles par des actes passés, qui sont engagés dans un processus d'actualisation. De sorte que ce présent, il n'est pas totalement indépendant, ce présent qui fait la réalité de l'individu, il n'est pas totalement indépendant de son passé et d'un avenir qui n'est pas encore pleinement réalisé, mais qui est en cours de réalisation. Donc pour conclure la discussion sur ce plan ontologique, donc on peut dire, me semble-t-il, que Hegel défend un actualisme de type présentiste, et on peut ajouter que cet actualisme à une dimension descriptive aussi bien qu'une dimension normative. En effet, pour Hegel, la valeur d'une proposition normative, qu'elle relève d'une intention morale ou d'un projet politique, dépend de sa capacité à s'actualiser dans l'action. C'est le sens de la critique de la valorisation kantienne de la conscience morale abstraite, aussi bien que c'est le sens également de la critique du devoir-être abstrait, qui sont développés l'une et l'autre sous différentes formes dans les principes de la philosophie du droit. On pourrait reformuler ces critiques célèbres sous la forme suivante. Une proposition normative ne peut prétendre à la validité que si elle peut être actualisée, c'est-à-dire que si elle parvient à se donner une effectivité. Une effectivité dans les actions, s'agissant du devoir-être moral, une effectivité dans des institutions, s'agissant des principes de droit, s'agissant du devoir-être politique. Alors, sur ce versant normatif, donc également, l'actualisme hegelien est un présentisme. C'est la capacité d'une proposition normative à s'actualiser dans l'action ou dans les institutions qui définit la valeur de ces propositions normatives, c'est ce que l'on vient de dire, mais cette capacité à s'actualiser, elle dépend tout entière des conditions présentes qui définissent des possibilités réelles d'actualisation, hein, qui excluent d'autres, qui excluent que telle proposition normative, que celle intention morale, que celle projet politique puisse être réalisée ou pas. Donc, j'en viens maintenant à la deuxième question, ça va aller un peu plus vite, qui concerne, ça, je veux dire par là que ça sera moins technique et plus facile à examiner, qui concerne donc la théorie de l'action. Hein. Est-ce qu'il est possible d'attribuer également un présentisme à Hegel du point de vue de la théorie de l'action ? Alors, je rappelle que dans le domaine de la théorie de l'action, le débat se déplace. Hein. La question n'est plus tant celle de la réalité de l'action que celle des facteurs explicatifs de l'action. Est-ce qu'ils sont à chercher, les facteurs qui expliquent le déroulement de l'action, est-ce qu'ils sont à chercher dans le présent de l'action, position présentiste, ou bien dans des causes antécédentes, disons position passéiste, ou position causaliste, disons, pour rester plus près des terminologies en vigueur, ou encore, est-ce qu'elles sont à chercher ces facteurs explicatifs du déroulement de l'action dans la visée d'état futur, hein, position intentionnaliste. Voilà trois positions différentes dans les débats relevant de la théorie de l'action. Ces débats, à première vue, semblent assez étrangers à la philosophie hegélienne, hein, bien qu'on trouve chez Hegel, notamment dans le chapitre 5 de la phénoménologie de l'esprit, des discussions qui peuvent être attachées à ces débats et dont on pourrait montrer qu'elles reviennent à défendre des positions présentistes. Dans le cadre de cette conférence, je ne vais pas entrer dans l'examen de ces développements complexes de la phénoménologie de l'esprit. Je vais me contenter d'analyser la manière dont Hegel décrit ce qui, pour lui, est constitutif de la plus haute activité pratique, hein, à savoir l'agir de l'esprit du monde dans l'histoire, hein, c'est-à-dire l'agir historique. Alors, il est frappant qu'à ses propos, Hegel récuse aussi bien les pensées qui expliquent le déroulement de l'histoire par la représentation d'un devoir-être à réaliser, hein, correspond aux positions de Kant ou de Fichte, qu'il s'oppose également à toutes les philosophies de l'histoire qui expliquent l'histoire par une origine, hein, par le déploiement d'une origine, comme chez Herder ou Schlegel. Et il oppose à ces deux types de conceptions de l'agir historique, hein, causaliste, si l'on veut, et intentionnaliste, si l'on veut, il leur oppose une explication du mouvement de l'histoire par les efforts fait par l'esprit pour dépasser ce qui fait obstacle à la liberté. C'est-à-dire, il explique l'histoire par une activité qui se joue entièrement au présent, où il conçoit l'agir historique comme une activité qui se joue entièrement au présent. Hein, c'est parce que l'esprit du monde fait l'expérience de ce qui entrave actuellement sa liberté qu'il s'engage dans des efforts pour surmonter ces obstacles. Et ces efforts ne s'expliquent ni par une cause antécédente à l'expérience de ces obstacles, ni par la visée d'un devoir-être indépendant de cette expérience. Au contraire, c'est parce qu'il fait l'expérience de cet obstacle que l'esprit, d'un temps déterminé, en vient à prendre conscience de l'insuffisance de la conception de la liberté qui prévaut dans une époque déterminée, et qui les conduit à élaborer donc une nouvelle conception de la liberté. C'est également pour cela qu'ensuite, eh bien, il fait effort pour actualiser cette nouvelle conception de la liberté, ce qui le conduit à transformer tout ce qui, en lui, hérite, en lui, esprit, hein, et qui s'est objectivé dans un monde d'institutions, de coutumes, un effort donc pour transformer tout ce qui hérite de l'ancienne conception de la liberté, qui est devenue seconde nature. Donc, effort de transformation donc, de ce qui, du passé, reste présent sous forme d'habitude, sous forme d'institution. Lorsque Hegel définit l'histoire comme un processus de faire avec les choses de la liberté ou d'actualisation de la liberté, hein, liberté qui est l'essence de l'esprit, il ajoute qu'elle est également un processus de prise de conscience progressive par l'esprit de sa propre liberté. C'est-à-dire une prise de conscience progressive de ce qui doit être actualisé dans l'histoire. Et il ajoute que cette histoire est un processus de formation, éducation, bildung et un travail. C'est-à-dire un processus de transformation progressive de ce qui est hérité du passé. Tous ces thèmes sont bien connus de ceux qui connaissent Hegel. Il relève d'une conception présentiste, selon laquelle l'agir historique se joue au présent. Alors, ici encore, on peut considérer que cette conception présentiste de l'agir historique a une valeur descriptive autant qu'une valeur normative. Elle a une valeur descriptive dans la mesure où il s'agit de décrire le propre de l'agir historique, le propre de l'agir de l'esprit du monde dans l'histoire du monde. Mais ce présentisme a également une valeur normative dans la mesure où il s'agit également de dénoncer des formes d'agir historique ou des projets, en d'autres termes, d'agir sur l'histoire qui s'appuient sur une autre conception de l'action historique. Hegel a pour objet de dénoncer les représentations inadéquates de l'agir historique qui gouvernent des projets politiques, comme le projet consistant à vouloir construire de toutes pièces une constitution. Comme si l'agir historique était analogue à l'agir technique, dans lequel on commence par se représenter un modèle et ensuite on met en œuvre les moyens permettant de produire ce modèle. Le fait que l'agir historique, considéré à l'échelle de l'histoire du monde, se joue au présent, n'exclut pas que des individus, des grands hommes ou des peuples essaient d'agir dans l'histoire en mettant en œuvre des formes d'action qui sont tout entières tournées vers l'avenir. Ah, c'est un fait. Mais, selon Hegel, il se condamne alors à l'échec, parce que les progrès de la liberté dans l'histoire ne peuvent se jouer que dans ce type d'agir qui se joue au présent. Soit ils se condamnent à l'échec, soit ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Le dernier débat concerne la connaissance du passé. S'il me reste 3 minutes, alors je vais me contenter de décrire la manière dont Hegel prend partie dans ce débat. Bon, je formule quand même la question et puis ensuite je conclue. Donc la question, s'agissant de la connaissance du passé, de savoir si la connaissance du passé ne peut prétendre à une valeur objective que pour autant qu'elle rompt avec le point de vue du présent. C'est une position tout à fait classique. D'accord ? Il n'y a de vérité en histoire que si l'on critique le point de vue rétrospectif. D'accord ? Alors cette position dans les débats historiographiques, elle est parfois définie par le terme d'historicisme. Il faut connaître le passé pour lui-même et non pas du point de vue du présent. Ou alors, eh bien, on peut opposer à ce type de position une position qu'on nomme parfois présentiste, qui consiste à dire qu'il est impossible de connaître le passé autrement que du point de vue du présent. Et la question alors est de savoir si on doit assumer cette perspective présentiste ou simplement tenir compte du fait qu'il est impossible de faire autrement. Alors, sur ces questions, là, nous trouvons chez Hegel des textes qui abordent très, très explicitement ce genre de questions. Hegel aborde très explicitement ces questions dans un texte méthodologique qu'il a rédigé lui-même. C'est une introduction manuscrite et qui ouvre les leçons sur la philosophie de l'histoire qu'il dispensait et qui sont conservées et qui sont disponibles aujourd'hui dans différentes éditions. Hegel aborde directement ces questions dans ce texte qui distingue différentes manières d'étudier l'histoire. Et il défend une position qui relève de ce que l'on peut appeler un présentisme non-relativisme. J'énonce juste les arguments. D'une part, il souligne qu'il est vain d'espérer revivre le passé, c'est-à-dire le restituer tel qu'il a été vécu. De même qu'il est totalement vain d'essayer de vivre ce que son chien vit. D'accord ? C'est impossible, c'est l'exemple qu'il prend. Pourquoi ? Parce que, solidairement, de façon connexe, il soutient que c'est simplement du point de vue du présent qu'il est possible de connaître le passé. En d'autres termes, il applique à la connaissance de l'histoire la thèse générale suivant laquelle nul ne peut sauter au-dessus de son temps. Mais par ailleurs, il soutient que le point de vue du présent n'est pas incompatible avec le fait de dire la vérité du monde passé. On peut énoncer une vérité concernant le monde passé, pour autant qu'on ne se contente pas de reconstruire arbitrairement les témoignages du passé. Les témoignages du passé qui sont actuellement disponibles et qui sont le seul matériau, le matériau présent, donc à partir duquel il est possible de connaître le passé. Il ne faut pas reconstruire arbitrairement donc les témoignages du passé ou les signes du passé actuellement présents selon la démarche constructiviste propre à ce que Hegel appelle la pensée d'entendement, mais il faut chercher à restituer l'unité spécifique de ce qui fait l'esprit d'un peuple et de l'esprit d'un temps, selon la démarche propre à la connaissance spéculative. Et le point donc sur lequel je voudrais terminer, c'est que c'est dans, dans le cadre de ce développement qu'il est question d'un éternel présent. Hegel soutenant que quelque chose du passé reste présent dans le passé, quelque chose du passé reste présent dans le présent, excusez-moi. Qu'est-ce qui reste dans le présent ? Eh bien, il reste le fait que la philosophie, pour poser la question de façon empirique à partir des faits qui inspirent la réflexion de Hegel sur ce point, la philosophie de Platon continue à nous parler, de même que l'art grec continue à nous parler, de même que la religion chrétienne continue à faire sens pour nous aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'histoire présente hérite des efforts passés faits par l'esprit pour se libérer, pour réaliser sa propre liberté et pour prendre conscience de la nature de cette liberté. Et c'est tous ces éléments rationnels du passé qui restent présents aujourd'hui et qui nous permettent de reconstruire rationnellement l'ensemble des éléments du passé qui aujourd'hui sont totalement révolus, qui ne sont plus que des matériaux morts, mais dont on peut reconstruire le sens à partir de cet éternel présent. Voilà. Ben, j'en sais qu'à là, je vais m'arrêter là.